France Culture.
Les informations sont présentées par Estelle Camerer. Bonjour Estelle.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. La police britannique écarte pour l'heure la piste terroriste après l'attaque au couteau survenue hier dans un train en direction de Londres. Attaque qui a fait 10 blessés, dont 2 sont toujours en urgence absolue. Nous irons à Londres en début de ce journal. Au Mexique, après le meurtre d'un maire hier, le jour des morts, tradition festive et colorée, se fête dans un pays marqué par la violence de la guerre entre cartels. À 3 jours de l'ouverture de son premier magasin physique au BHV de Paris. La marque Shein est épinglée après avoir proposé à la vente sur son site des poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Ils ont d'abord cru à une plaisanterie pour Halloween, mais le drame était bien réel. Hier soir, 2 personnes ont attaqué les passagers d'un train au couteau dans l'est de l'Angleterre et fait 10 blessés. 2 sont toujours en urgence absolue. Les témoins décrivent une scène d'une violence inouïe. Bonjour Gaëlle Joly. Gaëlle Joly.
Oui.
Correspondante de France Culture à Londres, où la police vient de tenir une conférence de presse. Les 2 assaillants ont déjà été interpellés.
Oui, les 2 suspects entendus en ce moment par les enquêteurs sont âgés de 32 et 35 ans. Tous 2 de nationalité britannique. Ils ont été arrêtés à la descente du train moins de 8 minutes après le premier signalement. Ils sont poursuivis pour tentative de meurtre, mais la police ferroviaire écarte à ce stade la piste terroriste et tente de comprendre les motivations exactes des assaillants. Le ministre de la Défense a affirmé ce matin qu'il s'agit d'une attaque isolée.
Elle a aussi donné des détails sur le déroulement de l'attaque.
Oui, et ce que précise la police ferroviaire, c'est que l'attaque a débuté environ 10 minutes après le départ du train du nord de l'Angleterre en direction de Londres hier soir vers 19h40. Le convoi s'est arrêté en urgence dans une gare. Les témoins ont rapporté des scènes de violence, des sièges couverts de sang. Écoutez, cet homme qui était à bord du train diffusé sur Sky News.
Il y avait pas mal de monde qui circulait et j'ai entendu quelqu'un dire « Il a un couteau, j'ai été poignardé ». Puis en levant les yeux, j'ai vu les voyageurs avancer dans le wagon pour tenter de s'éloigner des suspects. Tout le monde était paniqué et une personne s'est effondrée sur le sol.
À l'instant, le roi Charles III s'est dit horrifié et choqué. Le Premier ministre Keir Starmer a qualifié sur X l'attaque d'extrêmement préoccupante. Le gouvernement travailliste a pris plusieurs mesures pour durcir l'accès aux armes blanches depuis son arrivée au pouvoir l'an dernier. Près de 60 000 couteaux ont été saisis ou récupérés par la police en 10 ans en Angleterre.
Merci Gaëlle Joly, correspondante de France Culture à Londres. 6 personnes ont été tuées cette nuit en Ukraine, dont 2 enfants morts dans des tirs de missiles et de drones russes, d'après les autorités. Une attaque russe a aussi privé près de 58 000 foyers dans le sud du pays. Israël menace d'intensifier les attaques contre le Hezbollah dans le sud du Liban, où les autorités font état de 4 morts tués dans une frappe israélienne dans le sud du pays hier. Normalement, une tradition joyeuse et colorée pour se rappeler des proches disparus. La fête des morts revêt un écho particulier dans un Mexique marqué par la violence. Hier, le maire d'Uruapan, une grande ville du pays, a été tué par balle lors d'un événement public. Son meurtre s'ajoute au triste bilan des attaques causées par les guerres de cartels, notamment dans l'état de Sinaloa, au nord-ouest du pays, où les affrontements entre les clans d'El Chapo et d'El Mayo Zambada ont fait plus de 2000 morts depuis un an. Pour autant, la petite communauté de Surutato, située au cœur de Sinaloa, dans la montagne Badiragato, fief des fondateurs du cartel, a décidé de célébrer la tradition en grande pompe sur la place principale du village. Un reportage de Gwendolina Duval.
Allumer les bougies pour participer à cette belle tradition.
Menée par les Katrinas, ces figures élégantes maquillées en squelettes, des centaines d'âmes défilent en procession dans les rues de Surutato à la nuit tombée, alors qu'une grande partie de la population au Sinaloa s'impose un couvre-feu volontaire à cause de l'insécurité. Maria Urias est venue d'une ville située un peu plus au nord de l'État, exprès pour se changer les idées.
Nous sommes là en famille, on ne peut pas vivre dans la peur, on doit sortir pour vivre.
Au son de la fanfare du style du nord du pays, même la députée locale Veronica Rochin danse et se prête au jeu pour rassurer et montrer un signal positif.
C'est pour sauver notre culture et nos traditions. Je crois que le jour des morts doit être pour faire la fête, parce que notre histoire nous dit que ce jour-là, nos morts chéris reviennent ici, parmi nous.
Dans le coin, il n'y a pas de problème.
Moïse Ortiz, qui vit du tourisme ici, est ravi.
Mais oui, il y en a eu là-bas, plus loin, à 2 ou 3 heures de route, dans la montagne autour.
Cette année, au Sinaloa, le jour des morts amène un peu de vie et de normalité pour les habitants.
Direction l'Égypte maintenant, où hier soir, pour l'inauguration du grand musée égyptien du Caire, laser, orchestre symphonique, danseurs, il y a eu un vrai spectacle pharaonique. Le président Abdel Fattah al-Sissi parle du plus grand musée du monde dédié à une seule civilisation. Le projet est monumental, plus de 100 000 vestiges, 20 ans de travaux titanesques. Un musée qui s'inscrit dans une tradition égyptienne de grands projets urbanistiques. Bonjour Mercedes Volet.
Bonjour.
Avec nous en studio, vous êtes chercheuse émérite au CNRS et chercheuse au laboratoire Invisu. Le coût du musée est aussi monumental, hein, plus de 3 milliards d'euros dans un pays où les infrastructures manquent et la population reste pauvre. Quel est l'enjeu derrière un tel projet ?
Montrer une forme de grandeur. C'est une tradition, parce que moi je suis historienne de la ville sur disons le 19e et le 20e siècle, et ce qui me frappe c'est la continuité, la permanence. On est toujours dans le grand projet. Déjà le creusement du canal de Suez, c'était un grand projet. Le doublement du canal de Suez sous Sisi, c'est un autre grand projet entièrement financé par souscription publique, hein. On parle souvent du Golfe, évidemment, qui met de l'argent, en particulier dans la dimension urbanistique. Mais je veux dire, oui, c'est un grand pays, il y a plus de 100 millions d'habitants, je veux dire même presque 120 si on compte les réfugiés. Donc voilà, c'est un grand pays, c'est un très ancien pays. Ils considèrent qu'ils sont le berceau des civilisations, si vous voulez. C'est la réalité de l'Égypte. Et en plus, depuis que Sisi est là, il y a la reprise en main un peu de tous les secteurs de la vie économique par l'armée. Il y a un ministère de la production militaire. Maintenant, beaucoup de choses sont faites par la production militaire. Donc infrastructures, c'est pas que le grand musée, hein, c'est des routes dans tous les sens, éventuellement qui écrasent des cimetières. Bon, voilà, sujet compliqué. C'est dans la continuité. Chaque président, depuis Nasser et même avant, a rajouté sa touche dans, une évolution de la ville du Caire est généralement frappante.
Et cette évolution de la ville du Caire est marquée aussi par cette zone réservée aux touristes dans laquelle se trouve le musée. Est-ce que ça s'inscrit aussi dans la stratégie urbaniste du pays ?
Alors, si vous voulez, l'ancien musée des antiquités égyptiennes, qui reste toujours au centre du Caire, il était quand même au centre du Caire. Donc ça veut dire qu'il y avait une noria de bus amenant des touristes en plein milieu de la ville. C'est une ville où le trafic est très compliqué. On peut mettre des heures pour passer d'un point A à un point B. Donc sortir, si vous voulez, le grand musée, enfin les antiquités égyptiennes du centre du Caire, c'était évidemment, une facilité à la fois pour la circulation et aussi éventuellement pour la sécurité.
Et il y a plus de touristes, plus de sécurité. Et avec ce musée, est-ce qu'on peut parler de démonstration de puissance, notamment culturelle, par l'Égypte dans la région ?
Est-ce qu'ils ont besoin de la démontrer, cette puissance ? Ils l'ont, ils en sont convaincus, ils ont une histoire plurimillénaire, ce qui n'est pas tellement le cas des autres pays qui l'environnent. Donc, je ne sais pas si c'est une pierre de plus dans l'histoire de la grandeur, c'est une pierre de plus dans des grands projets d'une ville qui a changé complètement d'échelle depuis quelques années. Ça c'est vrai. Maintenant, elle s'étend sur plus de 100 kilomètres, alors qu'avant, c'était une ville très compacte, hein, et les grands projets, il y en a partout. Il y en a de dégager les principaux monuments islamiques du Caire en détruisant tout autour. Ils ont commencé avec la citadelle. Ils mettent même, des auberges de jeunesse près de la citadelle. Donc, c'est pas... ils enlèvent tout ce qui est un peu pas terrible, quoi. Et ils le font de manière assez violente et assez contestée.
Merci beaucoup, Mercedes Volet. Je rappelle, vous êtes chercheuse émérite au CNRS et chercheuse au laboratoire Invisu. Et merci à Aloïse Guérin pour la préparation de cette interview. Midi 39, vous écoutez France Culture et une question persiste, celle du budget. Après plusieurs jours de débats intenses au Parlement, le Premier ministre redoute la chute du gouvernement à n'importe quel moment, d'après ses mots dans les pages du journal Le Parisien hier. Pour rappel, vendredi, l'Assemblée a rejeté la taxe Zucman sur la taxation des ultra-riches, ce qui a provoqué la colère de la gauche. Dans l'espoir d'échapper à la censure, Sébastien Lecornu s'est dit favorable au dégel des pensions de retraite et des minima sociaux en 2026. Une demande du PS qui se félicite du vote de la transformation de l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive. Cette nouvelle taxe au rendement incertain a été votée par le Modem, le PS et le Rassemblement National vendredi soir. Jean-Luc Mélenchon accuse les socialistes d'avoir changé d'alliance. Le budget qui retarde la visite en Nouvelle-Calédonie de la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, a annulé sa venue à seulement quelques heures de son départ pour Nouméa. Elle devait tenter de faire venir les indépendantistes du FLNKS autour de la table des discussions sur l'avenir de l'archipel. C'est Sébastien Lecornu qui lui a demandé de rester à Paris pour, je cite, « contribuer aux côtés des parlementaires à la finalisation de la trajectoire budgétaire existante ». Exigeante et équilibrée pour les Outre-mer. Un sujet sur lequel Naïma Moutchou était attendue de pied ferme par les élus de l'archipel. Charlotte Manvi.
À Nouméa, comme dans tous les territoires ultramarins, les élus locaux sont vent debout contre le coup de rabot apporté à la défiscalisation outre-mer. Depuis 40 ans, ce dispositif permet aux contribuables métropolitains de bénéficier d'une ristourne fiscale à condition de financer des investissements productifs dans les territoires ultramarins. Le problème, c'est que le projet de loi de finances 2026 prévoit de diminuer de près d'un quart les aides fiscales, et ce sans aucune mesure compensatoire. À l'heure où chaque voix est précieuse pour le gouvernement, qui risque à tout moment de tomber, il y a urgence à trouver un compromis avec les 27 députés ultramarins. Pas question donc pour Sébastien Lecornu de laisser Naïma Moutchou quitter Paris, d'autant que le sujet est particulièrement sensible en Nouvelle-Calédonie. La défiscalisation figure en effet noir sur blanc dans l'accord de Bougival comme moyen privilégié de relance économique de l'archipel. Le déplacement était donc déjà risqué pour une ministre novice, tant les discussions politiques semblent dans l'impasse. Il risque sans solution sur la défiscalisation de se transformer en véritable chemin de croix.
Charlotte Manvi. Aucun élément ne permet d'affirmer l'existence d'une complicité dans le musée du Louvre en l'état du dossier actuel. Les mots de la procureure de Paris, Laure Becchio, ce matin sur France Info. À 3 jours de l'ouverture de son magasin au BHV à Paris, déjà accusée de pollution environnementale, l'entreprise de fast fashion Shein a été épinglée hier après avoir proposé sur son site des poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Bonjour Mercy Anezic.
Bonjour Estelle.
La direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a fait un signalement au parquet de Paris et a alerté l'ARCOM. Les poupées ont été retirées du site internet.
Des articles clairement identifiés comme pédopornographiques vendus sur le site de Shein comme une poupée de la taille d'une enfant avec le descriptif, je cite, « poupée sexuelle, jouet de masturbation masculine ». Véronique Béchu, la directrice de l'Observatoire de l'association e-enfance, une association de protection de l'enfance, est sous le choc.
Si vous lisez correctement le descriptif, vous pouvez voir qu'il est inscrit noir sur blanc qu'il y a un vagin et un anus réel, c'est-à-dire en gros, et pour parler très très crûment, il y a un trou pour permettre une pénétration. Donc c'est vraiment un objet qui a toutes les caractéristiques sexuelles et qui représente un enfant.
Ces articles à caractère pédopornographique ont été retirés de la vente, a affirmé Shein hier. Véronique Béchu rappelle de son côté que la commercialisation de tels objets a des conséquences dramatiques. Ancienne commandante de police, elle lutte contre les violences sexuelles sur les enfants depuis plus de 20 ans.
Les individus qui vont commander ce type d'objet, en fait, ce n'est pas un garde-fou contre leur fantasme et le passage à l'acte sur des enfants réels. C'est une manière de s'assurer des pulsions qu'ils ont, et c'est en fait un moyen de radicaliser leur comportement, et c'est la première marche avant le passage à l'acte physique sur des enfants.
Par ailleurs, la répression des fraudes constate également l'absence de dispositifs de filtrage efficaces pour empêcher des mineurs d'accéder à des poupées sexuelles d'apparence adulte sur le site, Estelle.
Merci à Nezic. Un mot sur le temps pour finir, avec des averses au menu de votre après-midi. Des Pyrénées au nord-est du pays, les éclaircies reviennent en revanche sur le pourtour du golfe du Lion. Les températures sont en baisse, entre 11 et 16 degrés sont attendus sur la moitié nord, entre 15 et 18 degrés en moyenne sur le sud. C'est la fin de ce journal préparé avec Antoine Bouchet, Anthony Thomasson à la technique.